justement cette séance est précisément faite pour rappeler les points saillants des trois moments, des trois séances précédentes, pour introduire une discussion collective. Nous avons en effet décidé que ce cycle de séminaire se ferait par une série de trois séances d'exposé et discussion, puis une séance comme celle-ci de rappel, de synthèse et de discussion collective, et puis à nouveau trois séances d'exposé et discussion, et puis une quatrième qui sera du même ordre que celle-ci. Alors le thème, si vous êtes venu déjà, ou si vous arrivez maintenant, mais que vous avez lu le programme dans la brochure du Collège international de philosophie, vous avez vu que donc nous voulons entamer une réflexion collective intitulée « Du public au commun » qui a pour intention d'élaborer ce concept de commun, d'en faire au fond un espace de problème, un champ de questionnement, pour essayer d'échapper à ce qui nous semble finalement une oscillation infernale entre précisément le public et le privé, l'État et le marché. Il s'agit donc d'un travail conceptuel, mais évidemment avec des implications politiques assez évidentes, en tout cas explicites pour nous. En effet, la logique de privatisation, la logique néolibérale de privatisation et de concurrence, donc s'est épanouie sur les ruines du socialisme et du communisme dans leurs expressions étatiques et, pour ce qui est du communisme, des expressions radicalement étatiques. Or, si l'on veut ouvrir de nouvelles pistes, si on veut s'ouvrir à un nouvel avenir, il nous semble que précisément c'est sur ce commun, sur la question du commun, qu'il faut porter l'accent. Alors, pour nous, il s'agit évidemment de clarifier les choses sur le plan conceptuel, mais en même temps de le faire par de multiples entrées. Les séances qui ont eu lieu précédemment, au nombre de trois, ont porté sur des thèmes différents, ou en tout cas ont frayé des voies différentes, qui seront continuées dans les séances ultérieures. La première séance a été ouverte donc par Tony Negri et Pierre Dardot, qui ont mis l'accent sur la formule même, c'est-à-dire sur la question du passage du public au commun. Comment problématiser ce passage du public au commun? La deuxième séance, donc, qui a donné lieu à deux exposés, l'un de Judith Revel et l'autre de Franck Coupeau, donc ont commencé à articuler la question du commun, la production du commun et la production de subjectivité. La troisième séance, donc, qui a eu lieu au mois de janvier, donc, a donné lieu à une présentation d'un travail de Pierre Dardot et de moi-même. Disons qu'il s'agissait d'une esquisse de généalogie de la question du commun telle qu'elle s'est posée historiquement dans la première moitié du XIXe siècle autour de cette tension entre la communauté et l'association. Vous trouvez tous les textes qui ont été les supports de ces interventions et des discussions. Tous ces textes, vous les trouvez sur un site qui est précisément, qui s'appelle « Du public au commun ». Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré et vous tombez sur ce site où vous trouverez les textes de ces interventions. Pour ce qui est de la suite du programme, je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine séance qui aura lieu donc ici sera le 9 mars et portera sur un ensemble de questions que Tony a déjà abordé dans sa première intervention, qui est la question du droit, plus précisément du droit du commun. Et nous entendrons donc deux interventions, l'une de Pablo. Je me trompe, la prochaine c'est l'économie politique du commun. Pardon. L'économie politique du commun le 9 mars. Donc ça sera deux interventions. L'une de Christian Marati et une de moi-même sur la question donc de la façon dont l'économie, dont le discours économique prend en charge cette question autour des biens communs, et on insistera en particulier sur la critique que l'on peut faire de l'économie politique du commun, en particulier dans ses versions américaines. La fois suivante, donc, nous aurons un exposé sur le droit du commun avec Paolo Napoli et Ugo Mattei qui, donc, aborderont les questions juridiques. Au mois de mai, nous aborderons une question évidemment décisive aujourd'hui, en particulier sur le plan politique, la question des réseaux, de l'activité politique et de la production du commun. Ça sera le 11 mai. Et le mois de juin, le 8 juin, nous aurons une séance, donc semblable à celle-ci, une séance de synthèse-discussion, avant de reprendre au premier semestre. De 2011, nous aurons 4 séances, donc à partir du mois d'octobre à décembre ou janvier. Voilà donc l'ensemble des séances que nous aurons. Alors aujourd'hui, donc Tony Negri et Nicolas Guillot vont chacun à leur tour présenter la façon dont ils ont perçu je dirais conçu également les premières séances, comment ils ont relevé un certain nombre de points de discussion et de pistes de réflexion. Chacun à leur tour donc présentera ces réflexions et nous aurons une discussion collective ensemble. Voilà, je vous remercie. Alors je ne sais pas quel est.
Je
vous alternez, très bien.
Donc, je vais commencer et je m'excuse et je vois aussi au nom de Nicolas parce que c'était évident que dans les premières 3 séances on a dit tellement de choses que c'est bien difficile résumer toutes les observations ou rendre évidentes les points centraux non, de la discussion qu'on a à partir déjà développée. Donc, avec Nicolas, nous, on a préféré déterminer 2-3 points, non? Et je peux déjà plus ou moins les annoncer, non? Le premier, c'est sur la possibilité. Y a-t-il la possibilité, première question, y a-t-il la possibilité de passer du public, du droit public, à une hypothèse des droits du commun? En réalité, la même définition du commun nous semble soulever quelques problèmes de définition autour justement de la couple droit commun. Deuxième problème que on essaya d'avancer ce soir est celui relatif à la question sur l'ontologie du commun. Et le commun avant ou après notre définition, notre activité. Justement, dans les relations qu'on a passées, non, il y a eu une polémique extrêmement forte, je crois, entre les lignes même. Une fois qu'on a détruit, comme on a fait, toute téléologie qui traversait, téléologie métaphysique ou darwiniste, ou dialectique, qui traversait le marxisme traditionnel, y a-t-il la possibilité de voir sortir de la réalité des formules du commun en tant que continuité, en tant que théorie des stades successifs, en tant que théorie progressive de la constitution du communisme? Troisième question, qui... On verra si ce soir on arrive à la mettre en discussion, parce que quand on va commencer à discuter les premières deux, je pense que ce sera difficile. La troisième question est toujours autour de l'accumulation capitaliste, c'est-à-dire le rapport entre l'accumulation capitaliste et la production du commun. Et là aussi, y a-t-il la possibilité de parler, par exemple, je ne sais pas moi, du communisme et du capital, du socialisme et du capital? Sont des termes qui ont certaines significations, qu'il faudra expliquer peut-être, et en tout cas, on se trouve dans la discussion ouverte autour de ces problèmes qui sont fondamentaux dans notre discussion. Je commence donc sur le premier point, et on articule la discussion entre moi et Nicolas. Donc, au premier problème, qu'il convient de soumettre à la discussion consiste à déterminer s'il est possible de repousser les limites du droit public occidental dans sa version romaine comme dans celle du droit du common law, afin qu'il puisse préfigurer un dispositif produisant un tertium genus, un troisième genre, le commun, le droit du commun, et se soustraire ainsi non seulement à la chosité, à la sacrifice privée et publique, mais aussi au formalisme antagonique propre au jeu de la procédure et du procès juridique occidentaux, qu'il s'agisse du droit occidental ou de la common law. Dans la tradition du droit romain, les exigences de l'individu propriétaire sont prises à l'intérieur des relations conflictuelles à somme nulle, puisque la raison s'oppose au tort juridique, qu'il entretient avec sa contrepartie dans le cadre du procès. La pratique juridique et la jurisprudence ne cessent de reprendre ce dualisme qui, dans la genèse du système capitaliste, révèle inéluctablement le sens d'une constitution de la propriété et reflète sa force fondatrice et unilatérale. On a insisté sur le fait qu'un droit du commun ne peut être que le produit d'une coproduction collective des normes communes, ou plus précisément des normes non étatiques. Comment définir dans ce cas la pratique instituante et ou la puissance constituante de ces normes et de ce système? Est-il possible à ce stade de supposer qu'il n'est possible d'imaginer un tertium genus, c'est-à-dire un droit qui se pousse au-delà des binômes état-marché public-privé, qu'à partir d'une démocratisation radicale du public et d'une forme de gouvernance adaptée à ces processus de démocratisation? C'est-à-dire, la question est claire, il n'existe pas un droit commun, mais peut peut-être exister, on peut peut-être hypothéser un système de normes non étatiques gouverné par une démocratie radicale absolue. Les normes sont produites non par un souverain, mais constituent un système qui s'ouvre à la coopération commune, et donc en sorte de gouvernance des sujets. On nous faudra-t-il conclure qu'un droit du commun reste impossible à définir, que l'universalité du droit ne pourra plus être affirmée, que la seule possibilité de constitution du commun réside non pas dans une substantialisation du droit, mais dans une continuité procédurale et constitutive, dans une gouvernance détachée de toute forme d'empowerment. De ce point de vue, il serait intéressant de reprendre, au prisme d'une lecture critique, la tradition institutionnelle et réaliste des études juridiques, tout en gardant à l'esprit le fait qu'il ne s'agit, dans le meilleur des cas, qui est une introduction à la définition des pratiques juridiques du commun.
Alors, je vais prendre à ce moment-là, là où il s'est arrêté, et Denis va continuer sur les deux autres points qu'il a annoncés. Alors, il l'a déjà fait en mon nom, mais je voulais avant tout m'excuser sur la façon dont ce séminaire a été déroulé, parce que, comme Christine l'a dit, on a voulu faire un bilan, et en faisant un bilan, on a voulu éviter les redites. Or, avec l'afflux de nouveaux participants, il se trouve maintenant qu'à la limite, on peut peut-être même faire le contraire et répéter. Alors, il se peut que ce que je veux dire reste peut-être un peu abstrait pour ceux qui n'étaient pas présents lors des sessions précédentes, puisque ça se réfère à des exposés qui ont eu lieu, mais enfin, je vais essayer autant que possible de faire référence quand ça sera nécessaire. Alors, moi, je vais m'attacher surtout à cette question du terrain juridique sur lequel on peut ou non formuler un concept de commun. Et cette question était celle qui a animé la première séance. Et donc, première séance autour de la forme juridique du commun. Quelles sont les formes possibles que l'on pourrait donner à un concept du commun juridiquement parlant? Quelles sont aussi, dans les traditions juridiques disponibles, les ressources qu'on peut avoir pour penser à ce que pourrait être un droit du commun? Alors, ça a été le fait de la première session, mais sur un mode éminemment problématique. Alors, les deux exposés qu'il y a eu, celui de Tony, qui vient d'en résumer les grandes lignes, et celui de Pierre Dardot, ce caractère problématique était ramené à l'absence, dans la tradition juridique occidentale, de catégories qui permettraient d'échapper à la solidarité profonde qui unit les concepts de public et de privé. Alors, très bref rappel pour dire de quoi il s'agit. Tony a insisté sur la structure publique du droit comme structure d'arbitrage des conflits privés, où la notion de bien commun, lorsqu'elle existe, ce qui n'est pas notre cas, est destinée à être ramenée soit à la propriété d'État, soit à la propriété privée. Ça, c'est la première catégorie. Pierre Dardot, quant à lui, a souligné que ces communs ne pouvaient être théorisés à partir du droit des personnes, ou ne pouvaient non plus l'être à partir de la catégorie de bien commun, qui a cours aujourd'hui de façon accrue, comme bien qui ne serait pas appropriable en vertu des propriétés intrinsèques qui sont les siennes. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est reprendre certains aspects de cet argumentaire et les valider d'une façon un tout petit peu différente par rapport à ce qui était dit dans cette première séance, en approfondissant la caractérisation juridique de ces fameux biens communs. Car si aujourd'hui la catégorie de biens communs est en effet, revient à la mode, en tout cas, elle a une vogue certaine, notamment parmi les économistes, et elle porte en effet sur les choses et les caractéristiques des choses. Il existe toutefois dans la tradition juridique un langage conceptuel pour aborder ce type de bien commun, et ça se trouve dans la tradition jurisprudentielle anglo-saxonne, et notamment un droit, enfin, on trouve dans cette tradition un droit spécifique au commun qui mérite d'être évoqué, qui est dans la mesure où d'abord c'est un commun qui est déterminé, et pas un commun qui est général et abstrait, et c'est un commun qui n'est ni celui des deux types de choses communes évoquées lors de la première séance, je le rappelle rapidement. L'une étant la res nullius, c'est-à-dire la chose qui n'appartient à personne et qui par conséquent est appropriable par tout un chacun, et l'autre étant la res omnium communis, c'est-à-dire la chose qui appartient à tous en général et qui elle aussi finalement susceptible d'être appropriée. Donc je voudrais m'écarter de ces deux types de choses-là qui ont été traitées lors de la première séance pour parler d'un droit du commun quelque peu différent et dont l'analyse, je pense, permettrait d'expliquer quelles sont certaines des apories. Contemporaine en tout cas de ce qui pourrait relever de la conception juridique du commun. Alors cette tradition juridique du commun dont on dispose, c'est celle que le droit anglais appelle the right of common et qu'on peut traduire par droit au commun, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un droit du commun. Alors ce droit, qui est un droit archaïque, c'est un droit archaïque au commun, est un droit qui est historiquement imbriqué dans la structure sociale et politique et économique d'ailleurs. La structure communale, en tout cas les townships médiévaux, c'est-à-dire le bourgade médiéval. Et dans ce droit au commun, dans ce right of common, on a bien des pâturages, les terres incultes, les forêts et les voies d'eau qui sont ceux de la communauté dans son ensemble. Et ces biens sont communs dans la mesure où ils peuvent faire l'objet d'un titre de propriété seigneuriale au regard du droit féodal. Il n'en reste pas moins que les habitants de bourgade détiennent un usufruit commun de ces terres. C'est-à-dire qu'ils peuvent en bénéficier collectivement et en régler l'usage collectivement aussi. Alors, pour le dire avec les deux principaux historiens du droit anglais, Pollock et Maitland, je cite, « Un right of common, c'est-à-dire un droit au commun, est un droit à jouir de quelque chose en même temps que quelqu'un d'autre. » Voilà ce qui définirait, en tout cas en tradition, ce que serait un droit au commun. Autrement dit, je n'ai ce droit que si d'autres l'ont aussi avec moi, sinon je n'ai pas. Autrement dit, on a un droit au commun qui semblerait bien être, en première approche en tout cas, un droit qu'on a toujours en commun. Un droit au commun, donc en commun. Il s'agit par exemple du droit de s'approvisionner en bois dans une forêt à partir du moment où cette possibilité est nécessairement ouverte à d'autres. Voilà comment ça se présente phénoménologiquement. Alors certes, même si on sait quel a été le destin historique des commons, il est là une forme de droit qui, du moins dans sa visée, semble s'opposer à la notion de propriété privée et en tout cas de toute forme d'exclusivité d'usage. Alors, est-ce que c'est à partir de là qu'on pourrait transférer du commun? En gros, aujourd'hui, en effet, des tendances similaires qui vont s'exprimer dans le débat public, autour de revendications qui portent sur le commun de la connaissance, par exemple, c'est-à-dire des communs, des biens qui existent comme tels à partir du moment où leur usage est collectif, sans choix, ou encore une tentative de pensée de régulation juridique de ressources naturelles, mais plus généralement dans toute forme de pensée qui se revendique dans ce qu'on appelle en anglais la decommodification, ou pour le dire plus maladroitement en français, la démarchandisation. Alors c'est au regard de ces tendances actuelles que je voudrais approfondir un peu cette analyse du droit au commun, et c'est au regard de ces tendances aussi que, à mon sens, l'analyse qu'en font les deux, enfin Pollock et Maitland, qui encore une fois sont les principaux les historiens victoriens du droit anglais, c'est l'analyse qu'ils font du droit au commun qui est susceptible, me semble-t-il, d'avoir une contribution fondamentale et de nous aider à situer avec plus de précision la démarche qui est la nôtre vis-à-vis des tendances à peine évoquées, qui sont des tendances qu'on parcourt. Alors, qu'est-ce que disent Pollock et Maitland du droit au commun? Eh bien, ils en font une analyse assez paradoxale, sur laquelle je voudrais m'arrêter un moment, parce que je pense qu'elle éclaire les apories de ce droit au commun. Ils disent que ce droit au commun, même avant le statut de Merton de 1936, qui est le point de départ des enclosures, est un droit qui est un droit singulier, c'est-à-dire un droit individuel. Il vaut la peine de citer dans son intégralité la tirade imaginaire que Pollock et Maitland attribuent aux freeholders, c'est-à-dire aux celui qui a usufruit de ce droit au commun dans la township, la tirade imaginaire qu'il attribue au freeholder qui défend son droit au commun contre le seigneur d'une part, mais aussi éventuellement contre ses pairs. Je cite. Il est vrai que les terres non cultivées sont en surabondance. Il est vrai que je ne peux y mettre que 4 bœufs. Il est vrai que si la moitié de ces terres se trouvait enclose, je n'en subirais aucun dommage. Il est vrai que tout le temps que vous êtes, vous désirez l'enclosure. Il est vrai que je suis égoïste. C'est plutôt critique. Mais je vous défie néanmoins dans l'ampleur de presque un mètre carré. Je vous défie dans votre droit individuel. Je vous défie dans votre droit conjoint. Vous pouvez tenir cours de justice. Vous pouvez passer les résolutions que vous voulez. Je les rejetterai car j'ai un droit de mettre les dettes sur ces terres dans toute leur étendue. La loi me donne ce droit et le droit le protège. Fin de citation. Et Pollock est maintenant de conclure. Il n'y a là aucun communalisme. C'est de l'individualisme in excelsis. Autrement dit, ce qui me semble éclairant, etc. Proche de la tradition juridique d'un droit au commun, c'est que le droit au commun est un droit qui n'est foncièrement pas dans un rapport de rupture avec l'individualisme juridique, c'est-à-dire avec l'intérêt propriétaire, et qui par conséquent, par ailleurs, sort historiquement en germe les principes de sa propre extension. Donc c'est un droit en commun peut-être, mais toujours détenu individuellement et défendu individuellement. Et surtout, c'est un droit que l'individu peut opposer à un gouvernement collectif des communs. En d'autres termes, c'est un droit qui pourrait par exemple être un droit individuel à la déprédation des communs. Ce qui veut dire que tant que l'on reste à tout aspect de droit au commun, une revendication portant sur des communs, on ne remet aucunement en cause les structures profondes qui lient l'imaginaire juridique occidental à la propriété. L'analyse du right of common suggère au final que toute tentative de penser une protection juridique d'un quelconque domaine commun, écologique, politique, quel que soit, naturel, ne peut rien marquer une rupture avec leur approche. Alors à partir de là, il faut monter d'un cran par conséquent des choses au droit lui-même et poser la question du commun comme une question qui touche avant tout à la production du droit et non plus aux formes constituées du droit, ce que Tony disait tout à l'heure. C'est le sens aussi de la conclusion de Pierre Barbeau à l'exposé qu'il a fait lors de la séance, parce que Pierre a ramené l'exigence du commun à, je cite, celle de l'égalité dans la coproduction de normes juridiques non étatiques. Fin de citation. Qu'est-ce qu'une coproduction de normes juridiques non étatiques? C'est avancer un peu sur cette piste que je voudrais maintenant essayer. On peut d'abord préciser ce qu'implique le fait que ces normes soient non étatiques. Une norme juridique non étatique est une norme qui ne prend pas la forme de la loi et qui par conséquent n'envoie pas une souveraineté. La constitution juridique du commun ne serait donc passée par la production d'un pouvoir, d'une figure centrale qui dirait la loi. Or, on trouve là aussi quelque chose d'approchant dans la tradition juridique anglaise, qui est celle de la common law. Au départ, le jus commune, le droit commun, n'est pas une notion fréquemment utilisée par les juristes séculiers. En revanche, elle indique un concept en droit canon, où elle désigne ce qui relève du droit ordinaire et général de l'Église, universel, et non des règles spécifiques à telle ou telle Église provinciale et aux privilèges particuliers qui pourraient être accordés par la même autorité. On retrouvera ensuite cette structure dans les affaires temporelles, puisque le droit commun du royaume s'opposera au droit qui résulterait d'une juridiction spécifique, d'un privilège, d'un aménagement juridique à valeur régionale, de tout ce qui relèverait d'une juridicité ad hoc. Cet usage tend à opposer droit commun à tout ce qui relève du statut, de la prérogative, mais aussi de la coutume locale, enfin, de tout ce qui est spécifique à un lieu. Le droit commun, en ce sens, s'oppose à ce qui est spécifique, spécial, singulier, à ce qui est même une instance particulière qui dirait le droit, ou plus exactement, qui dirait un droit lui-même spécifique. Alors, est-ce bien là ce à quoi on fait appel lorsqu'on pose comme condition du passage au commun un acte d'institution humaine commun, je cite le code de Pierre, de règles juridiques et non de loi. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on. Est-ce que c'est sur cette piste qu'on peut s'aventurer en réfléchissant à ce que pourrait être un droit de commun? Alors on dispose en effet de plusieurs modèles de production juridique décentralisée, distribuée, qui se feraient en l'absence d'une autorité centrale. La commando en est un, celle que je viens d'évoquer assez rapidement. La production des règles de la langue en est une autre, c'est un autre modèle. Dans les deux cas, c'est l'usage résultant d'une multitude d'interactions locales entre des agents libres qui produit par ajustement successif des effets de stabilisation, des régularités macroscopiques, si vous voulez, qui font figure de règles. Dans ce type de production juridique, ou de production linguistique, puisque là on a des schémas extrêmement proches, les règles sont bien communes, sont produites par un usage commun, et elles ne prennent pas, c'est important, la forme de la loi. Or, ces modèles de production normatifs distribués sont hautement ambigus. Ce n'est pas un hasard s'ils se sont historiquement prêtés à des interprétations évolutionnistes qui ont mis en exergue le caractère spontané de l'ordre qui nous produisait. Contre toute tentative d'en fixer des règles administrativement ou d'en coordonner le fonctionnement, y compris collectivement. En fait, surtout collectivement. C'est là, sans entrer en détail, par exemple, l'interprétation qu'en fera Hayek dans les années 50. Donc, cette version néolibérale, si vous voulez, de la production de normes juridiques non étatiques doit nous mettre en garde contre toute confusion du général et du commun. Confusion facile dès que l'on est dans le domaine du droit. Les confusions pour lesquelles l'intervention de Judith Revel a été décisive en rappelant que le commun reposait sur le maintien des différences et non sur le général, qui est toujours un plus petit dénominateur commun à la complexité juridique. Hein. Le commun est, je cite, le plus grand commun différentiel possible. En cherchant à aborder le commun à partir du terrain juridique et à partir de la question de la production d'un droit propre au commun, on se trouve donc placé dans une alternative peu enviable. Soit on tombe dans un spontanéisme de la production du commun, comme ordre spontané, spontanéisme de l'ordre spontané, soit pour l'éviter, on est inévitablement ramené à un spontanéisme de l'institution juridique du commun qui nous ramènerait elle-même inévitablement à une problématique de la souveraineté ou pire, à une issue décisionniste, dont le seul rôle politique aujourd'hui est comporter une attitude attentiste ou cynique ou élite. Il me semble donc que parler d'une institution de règles qui soit, je cite Pierre, des règles juridiques et non des lois, tient de la gageure, voire de la quadrature du cercle. On peut donc supposer que ce n'est pas à partir d'un terrain juridique que l'on pourra définir les contours d'une production du commun. Rétrospectivement, il apparaît aujourd'hui que une des tragédies socialistes en tout cas a été de n'avoir jamais pu s'émanciper de l'attachement à la conception juridique du commun. Si on excède de rares tentatives comme le discours de la philosophie juridique soviétique, comme celle qui a opposé par exemple l'approche de Evgeny Pachukhanis, qu'on a appelé juste nihiliste, au légalisme de Wyszynski. L'épisode est d'ailleurs révélateur puisqu'en théorisant le maintien d'une légalité socialiste, c'est-à-dire de règles juridiques communes, alors même que l'État est censé dépérir au profit d'une administration scientifique de la production, ce que Wyszynski théorisait était bel et bien une forme d'institution de ce qui était des règles qui ne relevaient pas de la loi étatique. D'ailleurs, les faits lui ont donné raison, puisque Pachukhanis a découvert, en finissant le bac, qu'il existait bel et bien une égalité socialiste. Du coup, soit le socialisme a restauré une notion de la souveraineté, mais forcément étendue à l'ensemble des rapports socio-économiques et totalitaires, soit il s'est replié pour reprendre ce qu'on disait Foucault en 79 sur une gouvernementalité libérale, donnant ainsi naissance au néolibéralisme. Et en proie à l'exposé de Christian Labat, toute ambiguïté de la tradition marxiste est d'avoir opéré à partir de Marx une synthèse qui s'est révélée instable entre l'expression spontanée du commun par la communauté et l'organisation scientifiquement administrée et la production d'une association producteur. On peut donc se demander si la détermination commune de l'agir en commun doit prendre nécessairement la forme de l'institution. Peut-on penser l'institution en dehors de la loi? La production de règles qui ne relèverait pas de la loi peut prendre la forme d'usages négociés, de pratiques du commun qui ne peuvent se donner qu'à travers des déterminations concrètes et des rapports de force. Et en ce sens, nous diriger vers ce qui a jusqu'à maintenant manqué à la tradition socialiste, à savoir une forme de gouvernementalité qui lui soit propre. C'est donc en direction des formes non étatiques d'administration et de régulation, qu'on a pu appeler une gouvernance sans gouvernement. Et c'est l'effet corrosif sur le droit qu'il faut peut-être orienter la recherche que pourrait être l'institution commune du commun. Je m'arrête là et je repasse la parole à Tony.
Moi, je ne sais pas, peut-être, si ça vaut la peine d'ouvrir aussi un autre thème pour ouvrir la discussion et après répondre. Décidez-vous, selon les intérêts.
Je pense que vous
Oui, on peut discuter. On peut ouvrir le premier cycle de questions de discussion, parce que donc Nicolas non seulement a rappelé les points de la séance, mais il a évoqué la deuxième et la troisième séance, et il a ouvert des nouveaux horizons, en particulier sur la critique qu'il fait de justement d'une possibilité d'un fondement juridique du commun, intégré dans ce qu'il a évoqué autour de la définition du droit au commun, qui effectivement n'avait pas encore été évoqué dans notre séminaire. Alors, ces questions ont déjà quand même été évoquées à la fois à la première séance et je crois surtout à la troisième, et surtout sur la fin, sur la question du socialisme. On peut effectivement reprendre. Alors, y a-t-il des interventions?